col. « Où sont mes draps, vilain juif ?» Mais le pauvre vieux ne lui retourna que des marmonnements confus et un regard terrifié. Morin le poussa vigoureusement en arrière et se mit à retourner avec rage tout l'intérieur de la petite bâtisse. Les quelques meubles que gardait le vieillard tombèrent, volèrent, se fracassèrent. La paille tournoya. Tel objet termina dans la cheminée avec une nuée d'étincelles, tel autre dans la neige au dehors. Et le drapier, grognant, fouilla longtemps encore sans trouver ce qu'il cherchait. Quand il comprit que les draps n'étaient pas là, les yeux injectés de sang, il dévisagea Zacharias qui s'était recroquevillé dans un coin. Puis il sortit de la capitelle, les poings serrés et le corps tout tremblant de colère. Mais alors qu'il allait retourner vers Béziers, sur le pas de la porte, il aperçut du coin de l'œil des traces de pas dans la neige qui disparaissaient derrière l'édifice. Il fronça les sourcils, puis entreprit de suivre cette piste et s'enfonça de quelques enjambées dans la blanche garrigue. Là, caché derrière un talus, il trouva un coffre en bois qu'il ouvrit d'un seul coup de talon. À l'intérieur, tacheté de petits flocons, était empilé ses beaux draps en étoffe de Bruxelles. Chapitre 30. Le soir venu, Andreas, qui avait fait dire à Marguerite qu'il ne souperait pas, s'était de nouveau plongé dans un mutisme dont la grandeur n'avait d'égal que celle de son agitation. Au cœur de son laboratoire, il avait l'allure d'un jeune novice tout animé par la joie de la découverte. Mais Sophocle ne disait-il pas que le savoir est de beaucoup la portion la plus considérable du bonheur, et Virgile qu'on se lasse de tout excepté d'apprendre. Avec l'appareil qu'il avait confectionné, et que pour satisfaire à la demande de son apprenti il avait baptisé Oculus Corpuscula, il observa sur la paillasse tout ce qui lui passait sous la main. Petit bout d'étoffe, petit bout de peau, ingrédients de sa pharmacopée, toute une série de végétaux et d'animaux disséqués, qu'il avait conservé dans des jarres. Sans pouvoir distinguer ce qu'il écrivait vraiment, comme il n'osait s'approcher assez pour lire par-dessus son épaule, Robin, qui n'avait pas quitté son maître, le vit prendre une considérable quantité de notes dans un petit in-folio sur parchemin. De fois à autre, l'apothicaire relevait la tête, semblait fixer un point imaginaire au plafond et murmurait tantôt un prodigieux, tantôt un sacristi, avant de coller à nouveau son œil sur le mystérieux cylindre. « Vous voyez quelque chose, maître ?» demanda timidement l'apprenti, dont la curiosité était de plus en plus aiguisée par l'effervescence de l'apothicaire. « Ah, mon bon Robin, il me faudrait de bien plus puissantes lentilles encore pour grossir assez la composition de toutes ces choses. Il faudrait des mois encore, peut-être des années, pour que Salvatore Armati réalise pour moi les outils dont j'aurai besoin. Mais oui, je peux le dire, ce que je vois est déjà fascinant. » Édifiant. Il y a tant à apprendre de ce que l'œil nu ne peut voir. « Je peux regarder ?» demanda timidement Robin en se frottant les mains. « Non. » Puis, après un long moment de grande et immobile perplexité, le maître se tourna vers l'apprenti et, d'une voix sévère qui indiquait qu'il ne souffrirait pas la contradiction, lui demanda « Va me chercher le tableau qui est dans la grande salle. » Robin se leva d'un seul coup. Tout à sa joie d'être enfin tiré d'un long désœuvrement. « Oui, maître. » « Et prends garde en le portant à ne point me l'abîmer. » « Oui, maître. » Le jeune rouquin revint bientôt avec le portrait qu'il posa sur la longue paillasse de marbre. Andreas disposa alors précautionneusement son Oculus Corpuscula sur la surface peinte et jeta un premier coup d'œil. Mais la nuit à présent était complètement tombée, et il n'y avait plus assez de lumière dans le laboratoire.
« Plus de lampes. Il nous faut plus de lampes, Robin !»
Le jeune homme s'exécuta aussitôt et rapporta toutes celles, de fait quatre, qu'il put trouver dans la pièce attenante, puis les plaça autour du tableau. Andreas, l'œil collé au cylindre, déplaça lentement celui-ci sur le portrait. Il eut alors tout le loisir d'observer les infimes détails de la peinture, à la tempéra, telle qu'il ne l'avait jamais vue et telle que personne, sans doute, n'avait encore pu en examiner aucune en ce temps. Passant de la gauche à la droite du tableau, il arriva bientôt sur le tiers qui, comme nous le savons, était singulièrement vide. Et ce qu'il découvrit alors donna plus de consistance encore à ce mystère qui le hantait depuis plus d'un mois déjà. Sur la partie gauche du tableau où était représenté Andreas, sous le glacis on devinait l'émulsion du jaune d'œuf.